Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président de la République n'a pas fait dans le détail. Alors qu'il commémore le 11 novembre, il y a quelques jours, il a déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale. Une déclaration qui a heurté, y compris quelques-uns de nos voisins européens. Angela Merkel a parlé, par exemple, de jugement intempestif. Dans le viseur d'Emmanuel Macron, le retrait des troupes américaines en Syrie, le comportement unilatéral de la Turquie dans la zone, une faiblesse de l'institution au moment où les États-Unis de Donald Trump semblent prendre leur distance vis-à-vis des alliés européens. Forcément, dans ce contexte, la question de l'Europe de la défense reprend de la vigueur, avec pourtant des questions qui sont loin d'être tranchées. Peut-on vraiment se passer de l'OTAN? Les Européens ont-ils à cœur de faire le choix de l'autonomie en matière de défense? Quels sont les alliés de la France aujourd'hui? Sur qui peut-on réellement compter? Défense, pourquoi Macron enterre l'OTAN? C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Rappelons votre Requiem pour le monde occidental, publié aux éditions Erol. Le général Vincent Desportes, vous êtes professeur des universités associé à Sciences Po, ancien directeur de l'école de guerre. Citons votre dernier ouvrage, Entrée en stratégie, publié chez Robert Laffont. Isabelle Lasserre, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service étranger et correspondante diplomatique au Figaro. Vous avez signé un article vendredi dernier sur notre sujet intitulé « Macron veut réveiller l'Europe puissance ». Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Enfin, Armelle Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct ce 11 novembre. Bonsoir à tous les quatre. La dernière fois qu'on a parlé avec une telle virulence de l'OTAN, si mes souvenirs sont bons, Pascal Boniface, ça devait être Donald Trump, non ? Qu'est-ce qu'il lui prend à Emmanuel Macron ?
En fait, il constate une évidence. Il dit que le roi est nu parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on veut qu'on les imagine. Effectivement, l'OTAN est remis en cause depuis longtemps par le président des États-Unis qui est censé être le chef de cette alliance et qui, avant d'avoir été élu et depuis qu'il a été élu, n'arrête pas de dire que c'est inutile, que c'est sans fin, que les Européens ne font pas le job, etc.
Obsolète.
Bon. Et en même temps, on voit bien qu'il y a l'article 5. Les alliés doivent se porter secours en cas d'agression. Mais il y a aussi l'article 4 dont on parle moins, qui est « on doit se consulter avant de prendre des décisions ». Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que le terme de « consultation » ne fait pas partie du vocabulaire et encore moins des usages de Donald Trump, qui décide de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien sans consulter ses partenaires, qui décide de retirer ses troupes de Syrie sans consulter, ni même avertir personne. Donc, en fait, eh bien, on peut dire qu'à un mois du sommet, parce qu'il va y avoir un sommet de l'OTAN début décembre, Emmanuel Macron tire une sonnette d'alarme ou un signal vraiment très fort en disant peut-être il est temps de se réveiller, d'arrêter de jouer les Walking Dead et de voir qu'effectivement on a un problème avec l'OTAN.
Il est vexé, Emmanuel Macron.
Vexé, non, mais disons que pendant 2 ans et demi, il a essayé d'amadouer Trump, de dire bon, essayons de faire des choses. Et il tire le constat que cela ne sert à rien. Il a au moins essayé de garder les liens. On ne peut pas lui reprocher, comme on reproche souvent aux Français, d'être idéologiquement contre l'OTAN. Non, il fait juste le constat, un constat plutôt pragmatique, que l'OTAN n'existe plus tel que ça a été conçu. Un, parce que la menace soviétique n'est plus la même. Et deux, parce que les États-Unis, surtout, ne sont plus les mêmes. Ne sont plus un pays capable de prendre en charge ses alliés, de les protéger et surtout de les consulter.
Général Vincent Desportes.
Moi, je trouve que le terme employé par le président Macron est extraordinairement clair. C'est un état de mort cérébrale. C'est un état de mort cérébrale. Vous avez parlé de mort marchand, et c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'institution fonctionne bien. On lui a même payé très récemment un super état-major pour 1 milliard d'euros. On fait des réunions, on fait des exercices ensemble, et ça marche bien. Et donc, le corps fonctionne, mais effectivement, il y a un problème de tête. D'accord. Je crois que aujourd'hui, alors je crois que Emmanuel Macron est lucide et courageux, et je crois que on ne peut que l'en féliciter. Je crois que, comme l'a dit Pascal Boniface, on a un certain nombre de problèmes. On a un vrai problème de leadership et on a un vrai problème de solidarité. Le problème de leadership est double. D'abord, il y a un problème de désengagement. Au fond, le chef en qui on croit, Trump, les États-Unis, ne croient plus en nous et n'ont plus envie de nous diriger. un problème de désengagement, parce que l'intérêt américain se porte, malgré un petit retour de pivot chez Obama du côté du Pacifique. Donc, les Américains se désengagent des crises dans lesquelles ils nous ont mis nous-mêmes, en particulier en Irak et en Syrie. Ensuite, un problème de solidarité, parce que le moins, évidemment, c'est la consultation des alliés avec lesquels on est. On nous laisse comme ça, on ne s'occupe plus de nous, on voit même les Turcs, comme le disait le président Macron fort justement, attaquer, lancer une attaque dans une zone dans laquelle nous avons nos intérêts sans même nous consulter. On les voit même acheter de l'armement russe mettant en danger le cœur de l'Alliance. Donc le verre est dans le fruit. Le fruit semble toujours beau, mais le verre est dedans et il n'est plus dirigé. On a une vraie crise de l'OTAN et donc un vrai problème de défense pour l'Europe.
C'est pas nouveau pour la Turquie. Non, il y avait eu quelques coups de canif dans le contrat.
Bien sûr, c'est bien
sur les achats, notamment d'armes.
Non, mais bien sûr, ça n'est pas nouveau. La présence de la Turquie dans l'OTAN est un véritable problème, comme la présence de la Turquie dans l'Europe.
Ça, on va en reparler. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi maintenant, d'un coup, ce coup de sang, vous nous avez dit, c'est totalement justifié. Il a utilisé en plus les bons termes. C'est parce qu'il y a cette réunion de l'OTAN. C'est parce qu'il a été ulcéré de ce qui s'est.
Non, c'est parce que quand il fait cette interview le 21. Oui. On est en pleine crise turque, c'est-à-dire que Trump annonce son retrait, le retrait des troupes américaines de Syrie. La Turquie s'engouffre dans cette espèce de vide, de ce feu vert donné par Barack Obama, et au mépris de toutes les règles de solidarité au sein de l'Alliance, intervient sans prévenir petit 1, et petit 2 attaque quand même les Kurdes, qui jusque-là étaient les alliés de la coalition anti-Daesh. Donc je crois que c'est ça, moi, qui a fait vraiment... alors les deux sont liés, là, c'est à la fois l'allié américain qui donne un feu vert à l'allié turc, donc à la fin, il y a deux alliés qui sont complètement dysfonctionnants.
Habituellement, comment ça se passe dans le monde rêvé de l'OTAN? On s'appelle, on se dit, je vais retirer mes troupes, on se demande un avis, on réunit les membres de... Qu'est-ce qu'on fait ?
Dans le monde rêvé de l'OTAN, déjà, quand on est à Turquie, on n'achète pas un système de défense antimissile S-400 à la Russie, dont l'objectif est de tuer l'OTAN. Donc ça pose un problème à la fois politique symbolique, mais aussi un problème concret, pratique, tactique. Par exemple, en Syrie, les Français ne peuvent pas faire décoller leurs avions... à partir du moment où il y a une défense anti-aérienne russe. Enfin, c'est assez compliqué, mais là, c'est le premier accroc, en fait, qui est quand même une vraie ligne rouge pour les Américains. Dans un monde normal, quand même, au sein de l'OTAN, on appelle ses alliés. On s'assure, quand même, que cette initiative ne franchit pas de ligne rouge.
D'accord. Enfin,
il y a quand même une espèce de tas de consensus, d'autant plus que tout le monde sait absolument pertinemment là où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Donc il y a un problème majeur de dysfonctionnement de deux alliés. Maintenant, enfin, je ne sais pas si on peut parler tout de suite de la... Est-ce que Emmanuel Macron a raison ? Il a raison sur le fond.
On va en parler, mais je voudrais juste avoir la vision de Armelle Charrier sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. Je précise, puisqu'on parlait de Erdogan et de Trump, qu'ils vont se voir cette semaine. Erdogan sera reçu jeudi à Washington, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire les choses entre eux, sans nous.
Oui, alors déjà dans la déclaration du président Macron, je crois que d'abord c'est quelque chose de très moderne. Parler de mort cérébrale, ça fait réveiller tout le monde. Regardez, on est autour de cette table en train d'en parler. Tout le monde a en tête maintenant que le prochain sommet de l'OTAN va se tenir début décembre. C'est-à-dire que quelque part, ça aurait presque pu être un tweet de Donald Trump. Vous voyez, dire l'OTAN est en mort cérébrale, c'est un moment donné.
C'est du Trump.
C'est de la stratégie politique, en tout cas. C'est de dire, on a un problème latent qui est sous la table. Jusqu'à présent, on ne l'avait pas sorti. Il faut le dire, et au moins, il le dit d'une manière crue. Pourquoi est-ce qu'il le dit d'une manière crue ? Oui, parce que la Turquie a été la ligne rouge. Quand vous dites comment ça se passe dans l'OTAN, ce qu'il faut imaginer quand même, c'est que par exemple, lorsque l'on intervient en tant que dans la coalition en Syrie et que la Turquie est dans le processus d'Astana, c'est-à-dire qu'elle travaille aussi avec les Russes ou qu'elle travaille aussi avec les Iraniens, on est bien obligé, dans le cadre de l'OTAN, de donner quelques informations à la Turquie parce qu'on ne peut pas se retrouver en frontal avec la Turquie. Donc c'est très complexe dans les états-majors de savoir comment est-ce qu'on donne l'information, qui récupère l'information, quelle est l'information que l'on ne doit pas donner mais que l'on est quand même obligé de donner. Donc tout ça est posé. Après, je crois qu'il y a aussi de la part du président Macron, dans l'interview qu'il a donnée à The Economist, où on a effectivement cette déclaration, aussi une vision plus large à un moment donné de ce qu'est l'OTAN aujourd'hui, et pas que de parler de la question de la Turquie. C'est aussi de dire, on s'est servi de l'OTAN, qui maintenant a 70 ans, parce qu'on était effectivement avec un regard tourné vers la Russie, et que maintenant, on a aussi une guerre de la partie qui correspond aux États-Unis jusque vers la Chine, avec ces nouveaux pays émergents, et que dans ces cas-là, il faut aussi revoir quelle est la position de l'Europe.
Il faut repenser le rôle de l'OTAN et la place de l'Europe. On va en reparler.
Couplé l'un et l'autre, effectivement.
Tout au long de cette émission, en tout cas, le sujet sera sans doute au cœur des discussions du deuxième Forum de Paris sur la paix qui débute ce soir. La charge d'Emmanuel Macron sur l'OTAN, qu'il juge en état de mort cérébrale, n'est pas passée inaperçue et a choqué les plus proches alliés de la France, dont l'Allemagne, Angela Merkel, parlant même de jugement intempestif. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
Un cercueil invisible porté par 6 soldats. Hommage aux militaires disparus en opération extérieure. Un monument aux morts inauguré par Emmanuel Macron cet après-midi, en mémoire des soldats tombés pour la France au Liban, au Tchad ou encore en Afghanistan, depuis la fin de la guerre d'Algérie. ...549 militaires, dont les noms sont inscrits sur ce mur, devant lequel le président s'attarde longuement.
Du Tchad au Mali, du Liban à l'Irak, des Balkans à la Syrie et au Burkina Faso, vous avez fait honneur à la France pour la défense de nos concitoyens, pour la protection de nos intérêts, pour la stabilité du monde. Et parce qu'il le faut, nous continuerons, aujourd'hui comme hier, demain encore, toujours, à défendre nos valeurs et à combattre nos ennemis.
Un rappel de l'importance du rôle de la France en tant que puissance militaire dans un contexte international tendu. Jeudi dernier, dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, Emmanuel Macron a critiqué ouvertement le fonctionnement de l'OTAN.
Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN.
Une déclaration choc qui vise notamment les États-Unis suite à la décision de Donald Trump de retirer ses troupes de Syrie début octobre. Un départ qui a précipité l'offensive turque contre les Kurdes, pourtant allié de la coalition internationale dans la lutte contre Daesh.
Vous n'avez aucune coordination de la décision stratégique des États-Unis avec les partenaires de l'OTAN et nous assistons à une agression menée par un autre partenaire de l'OTAN, la Turquie, dans une zone où nos intérêts sont en jeu, sans coordination.
Un constat d'échec, accueilli très froidement par les membres de l'organisation et en particulier par la chancelière allemande Angela Merkel.
Le président français a utilisé des mots drastiques pour évoquer l'OTAN. Cela ne correspond pas à ma vision de la coopération au sein de l'Alliance Atlantique. Je ne pense pas qu'un tel jugement intempestif soit nécessaire, même si nous avons des problèmes.
Réaction beaucoup plus chaleureuse du côté des Russes, adversaire historique de l'OTAN.
Ce sont des paroles en or, sincères et qui reflètent l'essentiel. Une définition précise de l'état actuel de l'OTAN.
Mais au-delà des défaillances de l'organisation, Emmanuel Macron pointe surtout du doigt l'attitude du président américain. Il faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump s'attaque régulièrement à l'OTAN jusqu'à la qualifier d'obsolète. Un terme repris il y a quelques jours par son secrétaire d'État, qui rappelle que les États-Unis sont de loin le plus gros contributeur de l'organisation.
L'OTAN court toujours le risque de devenir obsolète. Si les pays croient qu'ils peuvent obtenir le bénéfice sécuritaire sans fournir à l'OTAN les ressources dont elle a besoin, si les pays ne respectent pas leurs engagements, il y a en effet un risque que l'OTAN devienne inefficace ou obsolète.
Des relations entre partenaires loin d'être au beau fixe, À moins d'un mois du prochain sommet de l'OTAN, et alors que cette année, l'Alliance fête ses 70 ans.
Cette question, pourquoi Macron part-il tout seul et sur ce ton-là, avec un projet qui manifestement n'est guère soutenu par le reste de l'Union européenne ? C'est vrai qu'on a vu Angela Merkel assez courroucée, comme on dit, Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, a aussi pris un peu ses distances avec la déclaration d'Emmanuel Macron. On est tout seul sur cette ligne-là ?
On est, en tous les cas, c'est une tradition française d'être un petit peu le poil à gratter ou l'emmerdeuse de la classe, pour reprendre les termes de Gaulle. Sur le fait de dire, il faut peut-être ne pas être, on est allié mais pas aligné sur les États-Unis. Ouais. Et donc, comme on n'a pas eu besoin de la protection américaine pendant la guerre froide du fait qu'on avait l'arme nucléaire, on était dans une situation moindre de dépendance que l'Allemagne ou les autres pays qui dépendaient très strictement de la garantie américaine. Et on a finalement conservé cette stratégie d'indépendance, alors que malgré la fin de la guerre froide, les autres pays européens ont conservé une culture de la dépendance. Et effectivement, même si Mme Merkel a beaucoup de reproches à faire à Donald Trump, elle a un peu peur de voir l'Allemagne voler de ses propres ailes, la peur de l'inconnu.
Mais elle ne peut pas voler de ses propres ailes en matière de défense. Si,
parce qu'en fait, il n'y a plus de menace soviétique. Les pays européens de l'OTAN dépensent 240 milliards de dollars en dépenses militaires. La Russie, 60. Donc, d'un point de vue strictement militaire, on peut dire qu'il y a un défi stratégique russe, le comportement russe, etc. Mais il n'y a pas la menace telle qu'il y avait du temps de la guerre froide. Mais on a gardé cette habitude et, en fait, il y a deux États-Unis. Il y a Donald Trump qui dit « l'OTAN est obsolète » et il y a toute l'infrastructure, ce que Macron a qualifié pour la France, mais qui correspond aussi aux États-Unis, à l'État profond. Le Pentagone, la CIA, qui, eux, et la structure de l'OTAN, qui n'a pas envie de disparaître. Si vous êtes à l'OTAN, vous n'avez pas envie de fermer boutique. Donc, il y a une sorte de culture un peu de dire il y a toujours une menace russe qui équivaut à la menace soviétique. On a d'ailleurs élargi l'OTAN, ce qui a un peu crispé les Russes, donc ça nécessite encore plus de défense. Et donc on entretient un peu cela pour maintenir, parce que l'OTAN c'est aussi la garantie d'une influence américaine supérieure à ce qu'elle devrait être vis-à-vis des pays européens. Grâce à l'OTAN...
Ils y trouvent un intérêt stratégique.
Oui. Grâce à l'OTAN, les États-Unis sont une puissance européenne et ont une influence stratégique sur les capitales européennes.
Quelles conséquences peuvent avoir ces déclarations ? On a expliqué les uns et les autres, c'est ce que vous nous avez dit dans la première partie de l'émission, que le ton était très ferme, mais qu'il y avait sans doute un niveau d'alerte jamais atteint sur le fonctionnement interne de l'OTAN. Elles peuvent avoir des conséquences, ces déclarations d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, l'électrochoc peut éventuellement réveiller celui qui est en état de mort cérébrale. Et admettons, c'est peut-être une des tactiques du président Macron. Le problème, ce qu'il faut réveiller, je crois, c'est la crédibilité de la protection américaine. Le problème, c'est que nous sommes protégés par quelqu'un qui n'a plus envie de nous protéger et qui ne croit plus en nous. Et nous nous accrochons à cette idée-là. Il faut se rappeler que cette histoire de perte de non-crédibilité, de non-consultation, est une vieille histoire qui a amené aux relations difficiles du général de Gaulle avec l'OTAN. On se rappelle, je crois que c'est la première encoche dans cette affaire-là, c'est au début des années 60. Il y a un lien très fort à ce moment-là, entre la défense de l'Europe et l'Amérique, à cause de la doctrine de la destruction mutuelle assurée. L'idée, c'est que si jamais l'Europe est attaquée, alors je vous défendrai jusqu'à la mort. Et puis, sans que nous ayons été consultés, nous, les alliés, on va glisser entre 60 et 65 vers la doctrine de la riposte graduée, qui, au fond, est un véritable découplage de la défense de l'Europe et des États-Unis. Et puis on a
Qu'est-ce que ça veut dire ? La riposte graduée, en quoi ça met un coin dans la façon dont les choses se passaient ?
La destruction mutuelle, MAD, assurée, c'était si jamais vous attaquez, nous, on tire nucléaire, on est avec l'Union européenne, etc. La flexible response, comme ça s'appelait, c'était de dire, si vous avancez un peu, nous, on va voir ce que vous avez fait. Et puis, on tirera peut-être un tout petit peu si vous détruisez un peu une ville. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que pense le général de Gaulle, à juste titre, c'est qu'au fond, la guerre, entre l'Union soviétique et les Américains, se passera en Europe. Nous, on va les tirer des têtes nucléaires en Allemagne de l'Est, et les Russes vont tirer des bombes nucléaires chez nous, et finalement, nous serons les grands perdants. C'est ce qui va l'amener à quitter la structure intégrée de l'OTAN. C'est-à-dire ce problème de crédibilité, c'est un très vieux problème. Et Dieu sait que de Gaulle avait été payé pendant la guerre pour comprendre ce manque de crédibilité des Américains, puisqu'il avait été tenu à l'écart, au fond, de toutes les grandes décisions stratégiques. Ensuite, on n'a pas voulu le voir, mais c'est toujours vrai, bien sûr.
Et on est revenu en 2009
En 2009. Oui, on est revenu en 2009. Mais pourquoi ? Alors, c'était très intéressant. Sous quel motif ? On a dit que ça va renforcer l'Europe de la défense. Oui. On voit bien que c'est faux. C'était un espèce de prétexte qui n'a pas fonctionné, bien sûr.
C'est important ce que dit Vincent Desportes, parce qu'au fond, c'est ce qui sous-tend peut-être l'inquiétude que peuvent avoir même les gens qui nous regardent, de se dire bah, l'allié américain, est-ce qu'on peut avoir confiance encore aujourd'hui dans l'allié américain ? C'est ça la question en réalité qui est posée.
C'est ça la question. Et le problème, c'est que l'Europe réagit toujours trop tard. Ça fait des années qu'il fallait se poser cette question. Ce n'est pas uniquement lié à Trump. Déjà, Barack Obama menait la même politique étrangère que Donald Trump. Mais il y a une autre question qui est encore plus grave. C'est est-ce qu'on peut faire confiance aux Européens pour leur défense ? Et la réponse est non. Pour l'instant, on peut faire confiance
sur
à la France.
Sur l'Europe de la défense ?
Oui.
On va en parler dans un instant. Ah. Mais sur le fonctionnement de l'OTAN et sur le rôle majeur, évidemment, qu'ont les États-Unis dans l'OTAN, on en est à se poser la question. Bon, bah, si on avait un souci, on n'est pas sûr qu'ils viennent nous aider.
Regardons
en tout cas,
c'est exactement ce qui s'est passé.
Les Américains l'ont dit à deux reprises. Donald Trump a sous-entendu que l'entrée du Monténégro au sein de l'OTAN était une mauvaise idée et que si le Monténégro venait à avoir des problèmes avec la Russie, il serait considéré comme un État qui en gros forcerait les États-Unis à entrer en guerre, donc c'était pas forcément une bonne idée de répliquer. Et puis la question avait été aussi sous-entendue avec les pays baltes. En gros, on a compris que les États-Unis ne rentreraient pas forcément en guerre pour défendre les pays baltes s'ils venaient à être attaqués par la Russie. Le problème, c'est qu'on a une différence et une divergence. Vous parliez de la réaction de Madame Merkel, mais la réaction du Premier ministre polonais,
bien sûr, très sévère. Le Premier ministre polonais,
aussi très sévère.
Il a qualifié les propos de dangereux.
Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que Angela Merkel vit sous le parapluie de l'OTAN pour plein de raisons, mais tous les pays de l'Est vivent sous le parapluie de l'OTAN et ils continuent à être fidèles et à être attachés à cette OTAN, même si l'OTAN est en train de se désagréger.
Donc ça veut dire qu'il embarrasse ses partenaires européens, Emmanuel Macron.
Mais il fait plus que les embarrasser.
Il en fait peur.
Il creuse une division au sein de l'Europe entre l'Est et l'Ouest qui était déjà très problématique. Et c'est ça le problème. Est-ce que sur le fond, le diagnostic est le bon ? Est-ce que la forme est adéquate ? Parce qu'il y a déjà eu le terme l'année dernière d'armée européenne. Alors oui. Emmanuel Macron, c'est comme Trump, c'est un disrupteur. On a la chance d'avoir un président de la République qui est un disrupteur, mais qui n'est pas un populiste. Mm-hmm. Donc on peut s'estimer heureux, mais le problème, c'est que ces phrases choquent. Il y a quand même un pouvoir des mots en politique internationale. La diplomatie, c'est le pouvoir des mots aussi. Et donc il s'est mis peu à peu tous les pays de l'Est contre la France. L'année dernière, sa déclaration d'armée européenne, les gens ne comprennent pas.
Et il y a un mois aussi,
quand il a déclaré qu'il voulait nouer un partenariat stratégique avec la Russie, les pays de l'Est ne sont pas d'accord. Donc il y a un méga problème. Et c'est ça, à mon avis, le problème de cette déclaration. C'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'elle creuse, une division au sein de l'Europe qui est très problématique.
Oui, mais sur laquelle l'Europe peut rebondir. Moi, je trouve que dans la déclaration d'Emmanuel Macron, si on veut être positif, ça ne veut pas forcément dire qu'on pourra l'être, mais c'est une déclaration européenne. C'est avant tout, il est aussi en tant que leader de l'Europe quand il dit ça, parce qu'il a une position qui est une position de président français. On peut se permettre de dire ça parce qu'on fait partie, en tant que pays européen, du seul pays qui aujourd'hui a une armée complète, une armée corps expéditionnaire qu'on envoie effectivement à l'extérieur, et effectivement le nucléaire. Il y avait les Britanniques qui avaient la même chose, mais les Britanniques, quand ils ont eu toute une période de récession, ont sabordé une partie de leur armée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le seul pays qui peut parler sur ces questions-là, ça reste la France. Mais il a une vraie stratégie derrière. Quand je dis il y a une stratégie européenne de la part de Macron, c'est qu'il y a une réflexion sur le fait que si on n'a plus besoin de l'aide américaine, si on regarde l'Américain, non pas seulement en tant que militaire, mais qu'on le regarde aussi dans ses capacités économiques, dans ses capacités de nuisance-là, on sait très bien que l'OTAN permet aussi de vendre du matériel militaire, du matériel de l'armement aux pays baltes, à tous ces pays qui ont besoin d'avoir de l'aide là-dessus. Donc c'est ouvrir à un moment donné un cap en disant est-ce qu'on veut quelque chose d'européen derrière ?
Ce que je ne comprends pas, c'est à qui il s'adresse réellement ? Qu'est-ce qu'il espère Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il espère encore raisonner d'une certaine manière Donald Trump ?
Non,
qu'est-ce qu'il attend de cette déclaration-là ?
Il a perdu toute illusion là-dessus.
Et l'autre questions, je vous en pose deux en une, pardon Pascal Boniface, mais c'est l'enthousiasme. Sur les propos des Américains, ils ne sont pas les plus tendres avec l'OTAN, les Américains. Sur les questions budgétaires, ils nous rappellent souvent à notre devoir. On a entendu Donald Trump et Mike Pompeo parler d'organisation obsolète.
Oui, alors en fait, l'OTAN, les frais de fonctionnement de l'OTAN sont payés principalement à 75% par les Européens. Quand les Américains disent que l'Europe ne fait pas assez, on parle des budgets militaires. Et effectivement, le budget militaire américain, c'est 720 milliards de dollars, l'Europe, 240. Mais ce que demandent les Américains, c'est qu'on leur achète plus d'armes. Pourquoi veulent-ils que l'on augmente les budgets militaires? C'est pour acheter plus d'armes aux États-Unis. Le budget de fonctionnement de l'OTAN, les structures, c'est essentiellement les Européens. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Isabelle Lasserre.
Juste, pardon, ma première question, c'était qu'est-ce qu'il espère?
Ce qu'il espère, c'est réveiller tout le monde, parce qu'effectivement, on est dans l'immobilisme.
Mais qui? Pardon,
réveiller les morts.
Réveiller les Européens et lancer un débat public. Et ce n'est pas par hasard qu'il s'adresse à The Economist, qui est l'hebdomadaire de la mondialisation, qui est l'hebdomadaire qui est lu par toutes les élites, en dehors de Saint-Denis britannique, mais c'est lu dans le monde entier. Et donc, en fait, il voit qu'on est dans une impasse totale, et donc il se dit, soit on continue comme cela, mais si on attend que la Pologne ou les Pays-Baltes disent, il faut peut-être qu'on bouge, et bien, dans 2078, on en sera encore au même point. Donc, et il fait le Big Bang. Alors, bien sûr, il a pas tellement d'espoir de réveiller les Polonais. Les Polonais ont proposé 2 milliards pour construire un fort américain chez eux. Ouais. Mais il dit peut-être qu'on peut faire bouger un peu les autres. Et en tous les cas, c'est ça ou rien.
C'est ça ou rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'OTAN, l'implosion de l'OTAN, c'est possible?
Non, il voit plus loin que ça, je pense. Il dit c'est la fin de l'Europe. Parce que si on reste comme cela, dépendant des capacités américaines, sans rien faire, il avait déjà dit à la conférence des ambassadeurs au mois d'août, on ne peut pas être soit le partenaire junior de la Chine, soit le partenaire junior des États-Unis. Et si l'Europe ne prend pas en main son destin en disant ce sont les États-Unis, en fait, pendant très longtemps, on était protégés par les Américains. Ça se passait bien. Et là, maintenant, on a plutôt un mari violent. Ben, il est temps qu'on sorte et qu'on porte plainte.
Alors, ça veut dire quoi qu'on sorte et qu'on porte plainte? Ça veut dire sortir de l'OTAN, dire on n'a plus besoin de l'OTAN. C'est quoi la fin de l'histoire? Pardon, je termine juste ma question. Quand on commence à s'invectiver, on hausse le ton. Parfois, c'est nécessaire pour mettre les choses d'équerre. Vous avez dit il avait besoin, à un moment donné, de dire les choses clairement. Mais la fin, c'est la séparation, c'est quoi la fin?
Non, c'est sortir de la dépendance. On peut très bien être indépendant. Sortir de la dépendance n'est pas dire être hostile aux États-Unis. C'est simplement être en capacité de ne pas dépendre d'eux et de ne pas attendre de façon passive les décisions qu'ils vont prendre et qui nous concernent au premier chef.
Armel Charrier.
Peut-être aussi juste se poser une question, c'est-à-dire de dire les Américains protègent l'Europe tant qu'ils ont des intérêts sur l'Europe, mais si l'Europe, à un moment donné, devient quelque chose qui n'est plus aussi important en termes de géopolitique, si d'un seul coup on se tourne vers la Chine, alors il faut exister différemment. Et c'est ça, je pense, la question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des idées folles? Quand on a commencé à faire cette émission, j'ai passé 2-3 coups de fil et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, par exemple, les structures otaniennes existent. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous avez parlé effectivement des états-majors qui ont été créés, qui ont été financés, etc. Les troupes américaines, les Américains, c'est 15 à 20% aujourd'hui de ceux qui sont dans les états-majors. Tout le reste, c'est européen, ça existe déjà. Pourquoi est-ce qu'un jour, on n'envisagerait pas une bascule et qu'on ferait une bascule de cet état-major de l'OTAN et qu'on passerait sur quelque chose de plus européen dans le cadre. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense que c'est ça, à un moment donné, c'est secouer sur des idées qui sont déjà adoptées, réfléchir différemment et se dire comment est-ce qu'on franchit un cap pour aller vers une autonomie.
Une autonomie ou un changement de modèle, l'OTAN, les Nations Unies, est-ce que ces grandes organisations-là qui quand même visaient à instaurer la paix, le multilatéralisme, est-ce que ça, au fond, n'est pas complètement dépassé, obsolète?
Si, bien sûr, c'est obsolète, parce que le monde qui a été créé en 1945 à San Francisco, le monde de l'ONU, etc., puis le monde de l'OTAN après, est un monde qui existait, mais qui a bougé. Vous savez, c'est comme de l'autre côté du miroir, quand vous êtes là et que vous voyez le monde bouger, si vous ne faites rien, eh bien, vous vous faites dépasser. On est en train de se faire dépasser par la Chine, par la Russie, etc. Parce qu'on ne change pas. On ne change pas alors que le monde a profondément changé et que toutes ces structures dont vous nous parlez, à juste titre, étaient des structures qui étaient réassurées par les États-Unis. Mais les États-Unis ne veulent plus réassurer. L'ONU sans les États-Unis, c'est une ONU impuissante. L'OTAN sans les États-Unis, et à mon avis, l'OTAN et sans les États-Unis, c'est une organisation impuissante. La question que vous posiez est une vraie question. Il faut se rappeler pourquoi les Américains sont venus par deux fois nous sauver en 1944 ou 1943 en Italie et en 1917, parce qu'ils avaient des intérêts en Europe, parce que leur marché ne fonctionnait plus. Il fallait y retourner. Ils étaient aussi portés par des valeurs, bien sûr, mais l'intérêt économique était primordial. Et la deuxième lien très fort, charnel, qui existait entre les États-Unis et l'Europe, c'était le fait que chaque Américain qui venait mourir, hélas, en France ou en Italie, avait son père ou son grand-père qui venait d'Europe. Mais ça, c'est fini. Maintenant, la majorité des Américains sont d'origine hispanique, africaine, ou asiatique. C'est-à-dire que, je l'ai dit souvent, mais je crois que plus jamais un soldat américain ne reviendra mourir sur le sol français. Or, les institutions, ou en Europe, donc les institutions dont vous nous parlez, elles sont basées sur l'idée que oui, ils reviendront quand
ils
on
ne reviendront
aura
pas pour
besoin.
Faire la boucle de ce que vous expliquez, parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt bien économique.
Sûr. Rappelez-vous, M. Obama disait, je suis le premier président du Pacifique, le pivot. Il est revenu un peu en arrière à cause des affaires du Donbass, etc. Mais au fond, ce mouvement-là, il est irréversible. Et je crois qu'il faut le comprendre. Moi, je crois, on en reviendra tout à l'heure au deuxième sujet, mais je crois que nous n'avons plus que quelques années pour construire notre autonomie politique, notre autonomie capacitaire, notre autonomie opérationnelle.
Alors, je sens que vous voulez en parler, hein, de l'Europe de la défense. En tout cas, c'est une vieille lune qui date de 1952, l'Europe de la défense. Emmanuel Macron pousse depuis son arrivée au pouvoir le projet d'une Europe en mesure d'assurer et d'assumer elle-même sa sécurité, même si la protection du puissant allié américain reste, on l'a vu tout à l'heure, un réflexe pour bon nombre de nos voisins européens. Les projets militaires des 27 prennent forme malgré tout, petit à petit. Paul-Rémy Barjavel, Christophe Roquet.
Des soldats issus de 10 pays différents, en cadence, sur les Champs-Élysées. Le 14 juillet dernier, l'Europe est au cœur du défilé militaire. Ces soldats font tous partie de l'IEI, l'Initiative Européenne d'Intervention. Son but, créer une culture stratégique commune et mener à terme des opérations visant à protéger les intérêts européens.
On ne vient pas combler un manque de la part de l'OTAN. C'est simplement, je le redis, c'est focalisé sur le terrain, au niveau tactique, au niveau opérationnel, pour agir réellement ensemble. Voilà, par exemple, là je reviens du Mali, l'OTAN n'est pas présente au Mali. Voilà. Par contre, il y a des forces, effectivement, des forces européennes. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette initiative gagnera en efficacité et aussi peut-être en visibilité.
L'IEI, un projet lancé par Emmanuel Macron, qui a fait de l'Europe de la défense son cheval de bataille depuis son arrivée à l'Élysée.
Moi, je crois dans un projet d'une Europe souveraine, d'une Europe puissance. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Et on doit avoir une Europe qui se défend davantage seul, sans dépendre seulement des États-Unis, et de manière plus souveraine.
À Bruxelles, la conférence des 6 sur la CED a connu 4 jours difficiles.
La CED, la Communauté européenne de défense. L'idée est lancée au début des années 50. À l'initiative du projet, la France finalement s'y oppose. La défense européenne devient alors un serpent de mer. L'idée est enterrée jusqu'à la chute du mur de Berlin. Lors du traité de Maastricht en 1992, la défense européenne est mentionnée avec prudence. C'est la création de l'Eurocorps, une force de maintien de la paix, intervenue depuis en Bosnie et en Afghanistan. À peine 1000 soldats, loin d'une armée européenne. Dernière avancée, la création du Fonds européen de la défense, doté de 13 milliards d'euros de crédit sur 7 ans.
L'Europe de la défense se renforce grâce à ce Fonds européen de défense qui est une véritable révolution pour l'Europe puisque jamais jusqu'à présent, l'Europe n'avait investi un euro en faveur de la défense. Oui, nous allons développer une industrie européenne, nous allons développer une innovation européenne, des technologies européennes et également des emplois partout en Europe. Et c'est à cela que ce Fonds européen de défense va servir.
De nouveaux financements à partir de 2021 donc, et des projets communs, comme cet avion de combat européen, dont la maquette a été dévoilée lors du salon du Bourget en juin dernier. Ou encore ce char franco-allemand, qui devrait être opérationnel d'ici 2035. L'Europe de la défense se construit peu à peu.
Ce qui permet d'ailleurs de voir que ça avance, c'est que les Américains sont très inquiets. Les Américains, notamment, sont en train d'essayer d'attaquer le Fonds européen de défense. parce qu'ils s'aperçoivent que leurs entreprises n'en profiteront pas. Et ils sont en train de s'apercevoir, en réalité, que les Européens avancent pour développer leur défense. Et d'une certaine manière, ils avancent sans eux.
Une défense collective européenne toute relative. L'année dernière encore, la Belgique a préféré acheter des avions F-35 américains plutôt que des avions de chasse de production européenne.
Alors, on se faisait la remarque sur l'image qu'on vient de voir du char franco-allemand. Est-ce que c'est celui-ci qui ressemble étrangement au...
Ah bon, je trouve qu'il ressemble énormément au Charles Leclerc. Pour en avoir commandé 80, je crois que c'est quand même plutôt le Charles Leclerc. Et je pense qu'il y aurait quand même un certain nombre d'évolutions dans le char que nous prévoyons.
On ne le connaît pas encore.
Non, on en connaît peut-être des maquettes, mais on ne sait pas encore, bien sûr. Non.
Il ne roule pas, il n'est pas encore...
Sûrement pas.
C'est pour l'instant une belle idée ou c'est plus que ça juste...
Non, mais c'est plus que ça, parce que l'autonomie capacitaire fait partie de l'autonomie stratégique. Et donc, il faut arriver à construire des armements avec la technologie française, européenne, oui. Avec les budgets européens. Donc, ce n'est pas une belle idée. Il faut le faire dans le cadre des aéronefs, c'est le SCAF, il faut dans ce cadre-là, dans tous les autres cadres. C'est pour ça que les projets qui ont tous été lancés en 2017, d'ailleurs, à l'arrivée du président Macron, sont des projets qui vont dans le bon sens. Hein. Et je crois que c'est très important, bien sûr.
Cette question, quelle place Emmanuel Macron donne-t-il à l'arme nucléaire dans son projet d'Europe de la défense? Je reste avec vous.
Alors je pense fondamentalement que le président Macron est profondément gaullien, et que donc cette arme nucléaire a beaucoup d'importance pour lui, et ce qui était vrai pour la France de De Gaulle est toujours vrai pour la France de Macron, c'est-à-dire que la part d'autonomie que nous avons, nous la devons quand même essentiellement à notre arme nucléaire, et que donc, évidemment, le président Macron ne peut pas s'en départir. Après, la question est, comment peut-on en partager un peu avec les pays européens? Ça, c'est un vrai problème qui est loin d'être tranché. Mais un président français, je dirais aujourd'hui, le président Macron, a la grande chance d'avoir une certaine autonomie. Et s'il tient le discours qu'il tient sur l'OTAN, c'est parce qu'il a cette arme nucléaire.
Ça veut dire quoi, en fait, l'Europe de la défense? On l'a vu hein, dans ce reportage, c'est une vieille histoire, un vieux projet européen. On a l'impression qu'on accélère depuis 2017, mais pour aller vers quoi? Vous nous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous, attention aux mots qu'on utilise quand on parle d'armée européenne, d'Europe de la défense. Quelle est en réalité le projet? Si le sujet, c'est de tourner le dos à l'OTAN pour les raisons qu'on vient d'évoquer dans la première partie de l'émission. Il va falloir que ça ressemble à une vraie armée.
Ce n'est pas tourner le dos à l'OTAN, c'est dire on peut agir, on peut se défendre, même si l'OTAN est en panne. Donc c'est quoi? C'est dire être en mesure de faire face aux défis sécuritaires qui sont posés à la hauteur des pays européens. Ça veut dire quoi? Donc avoir une industrie de défense, parce que le but des États-Unis, c'est de tuer l'industrie de défense européenne.
Qui se porte bien?
Qui se porte pas trop mal, qui résiste notamment grâce aussi aux Français, les Britanniques, les Allemands. Mais effectivement, quand les Belges choisissent un avion américain, ils font plaisir aux Américains, mais ils ne suivent pas le projet. Donc ça a pu avoir des capacités. Et effectivement, la force d'intervention européenne est extrêmement importante parce qu'il y a des domaines où les États-Unis n'ont peut-être pas envie d'intervenir et on voit que les pays peuvent intervenir par eux-mêmes. Donc être en mesure d'assurer notre sécurité au cas où les États-Unis aient choisi de ne pas intervenir, ce qui est moins compliqué, une fois encore, que du temps de la guerre froide, parce qu'on n'a plus à faire face à l'immense menace soviétique, mais on a à faire face à des défis plus locaux et plus mesurés.
C'est ce qu'ils attendent de nous, les Américains?
Non, les Américains, en fait, ils attendent de nous. Ils sont contradictoires. S'ils voudraient qu'on paye plus, ils sont pour ce qu'on appelle le burden sharing, le partage du fardeau, mais ils ne sont pas pour le power sharing, ils ne sont pas pour le partage du pouvoir de décision. Ils voudraient pouvoir continuer à décider seuls et qu'on paye plus. Bon, parce que c'est et parce que aussi, bah en fait, il est dur de sortir. On a une dépendance stratégique vis-à-vis des Américains qui date de la guerre froide. Et même si la guerre froide est terminée, cette habitude de dépendance, il est très difficile d'en sortir, notamment pour les pays qui n'ont pas l'arme nucléaire et qui n'ont pas cette capacité d'autonomie que l'on a historiquement. Et donc l'idée, c'est de réveiller les Européens pour leur montrer que c'est possible, qu'il ne faut pas avoir peur, tout simplement.
Alors où on se parle. Qu'est-ce qui existe de la défense européenne, de l'armée européenne, de l'Europe de la défense? Mais vous mettrez les mots que vous le souhaitez. Qu'est-ce qui existe concrètement?
Je crois que la notion d'armée européenne, telle qu'on l'envisagerait, c'est-à-dire qu'on est tous une armée commune avec un état-major commun, avec un ministre de la défense commun, etc., ça n'existera pas. Peut-être que dans
Pourquoi
ce sera dans beaucoup,
Pourquoi
beaucoup...
ça n'existera pas?
Parce qu'on touche au régalien, on touche à la souveraineté, on touche à ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est agressé, vous allez réagir comment? On est en train de parler de l'OTAN, vous êtes en train de dire « Ah, mais il faut qu'on ait les Américains pour nous ». Mais si demain on est agressé, la première chose que vous allez demander, c'est que vous allez dire « Il me faut mon armée, il me faut il me faut ma décision, il me faut mes armes, il me faut avoir, savoir comment est-ce que je vais faire, il faut que je sache si je fais du renseignement par là. Donc ce cœur-là, il reste fondamentalement national. Et c'est ça la difficulté d'une Europe de la défense. Simplement, si on met les choses différemment, si on parle sur le fait qu'à un moment donné, on est dans une zone de défense qui a évolué, que lorsque l'on parle, par exemple, du parapluie américain, on est aussi en train de parler de tout ce qui est la cybersécurité, par exemple. Aujourd'hui, la plupart de nos armements sont connectés. Donc, quand on a des armements connectés, ça veut dire qu'il faut qu'on les mette dans un cloud. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut donc qu'on ait possession de ce qu'on considère être le plus discret possible. Est-ce que ça existe au niveau européen, ça, aujourd'hui ? Non, ça existe chez les Américains, ça existe chez les Chinois. Ça n'existe pas au niveau européen. Là, il faut à un moment donné commencer à réfléchir à un niveau européen. Il faut arriver à se dire, est-ce qu'on va avoir... Alors, on a des petites avancées, concrètement, là, sous la commission Mogherini, on a vu des avancées concrètes. On a un commissaire qui va être le commissaire à l'intérieur, à la sécurité et à la défense, qui n'était pas le cas. Il y a eu un fonds de roulement avec quelques dizaines de milliards qui a été mis en place. Il y a quelques dizaines de milliards qui ont été alloués aussi à l'industrie européenne. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, il faut faire des choses progressivement. Il faut
demander... On prend le temps, hein.
Oui, mais il faut demander à avoir une industrie européenne, il faut avoir un renseignement, enfin une sécurité européenne, et puis il faut accepter de dire que dans ce cas-là, il faut un leadership qui soit peut-être effectivement sur les pays qui traditionnellement l'ont, et qu'ensuite, il faut aussi que des opérations soient menées de façon européenne, et pas que tout seul. On parlera ensuite de Barkhane.
On va parler de Barkhane. Alors Thierry Breton, qui va devenir sans doute commissaire européen, préconise, par exemple, il préconisait un budget commun consacré à la défense. Ça doit passer par ça, déjà, pour commencer ?
Alors, d'abord, c'est un peu en partie réalisé. Il y a le Fonds européen de défense qui a été lancé par le président Macron, qui est en train de se réaliser, qui n'est pas énorme. Je crois que c'est 13 milliards sur 7 ans. Mais c'est quand même un premier pas. Alors, pour revenir sur l'affaire du terme, je crois que tant Angela Merkel que le président Macron utilise le terme armée européenne, parce que ça dit quelque chose. Si on parle de coopération structurée défense ou d'initiative d'intervention, les gens ne comprennent rien. Alors que l'Europe, l'armée européenne, les gens comprennent. Et d'ailleurs, c'est plébiscité par les Français.
Ça ne veut pas dire des soldats européens.
Non, ça veut dire autre chose. Mais dire à un moment donné, ça veut simplement dire qu'on soit capable de se défendre ensemble. Et c'est là le deuxième point, c'est qu'à 29 ou à 28, évidemment, on n'y arrivera pas. Donc ça va supposer, à un moment donné, de faire un eurogroupe, on l'a fait pour l'euro, et d'avoir des abandons de souveraineté. Il faut bien comprendre que la défense de chacun des pays passe par un certain nombre d'abandons de manière à être plus fort ensemble. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à faire comprendre à un certain nombre de pays. Ce qui est sûr, c'est que si on continue sur les routines habituelles avec nos 29 ou 28 pays européens, nous ne ferons rien. Donc il va bien falloir repartir autour d'un cœur qui a vraiment compris le problème, qui veut vraiment s'engager, et petit à petit, éventuellement, on agrégera d'autres pays.
Derrière la France ? Leadership en matière de défense en Europe, c'est la France ?
Non, c'est la France. C'est la France, forcément. La France est la seule armée complète. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais la France, c'est la France. Mais derrière, on ne peut rien faire sans l'Allemagne, c'est bien évident. Et après, il faudra le faire avec d'autres pays. On voit que l'Italie, par exemple, vient de rejoindre, alors qu'elle n'était pas un membre initial, cette initiative européenne d'intervention. Donc on voit qu'un certain nombre de pays comprennent que désormais, il faut aller relativement vite et pas selon les procédures anciennes qui, vous l'avez dit, vous l'avez répété, ne fonctionnent pas.
Qui traîne les pieds ? Qu'est-ce qui coince ?
Tout le monde traîne les pieds. Il faut comprendre quand même que l'Europe, en 1989, 1990, à la chute du mur et au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, s'est endormie et a décidé de vivre dans le monde des bisounours. Donc il y a une espèce de bulle qui a été mise sous l'Europe. On s'est reposé sous le parapluie nucléaire, parapluie sécuritaire et nucléaire américain. Enfin, pas pour nous, le parapluie nucléaire. Et il y a eu un réveil assez brusque avec les attentats terroristes, la menace djihadiste et les agressions de la Russie en Géorgie et en Ukraine. Mais pour l'instant, il n'y a que la France qui se réveille. Alors, on se gargarise en disant l'initiative de défense européenne, etc. Enfin, pour l'instant, ce ne sont que des projets embryonnaires et ça ne va absolument pas assez vite. En tout cas, on n'est absolument pas au point où on pourrait prétendre à remplacer ne serait-ce que 10% de la capacité européenne.
Qu'est-ce qu'ils craignent ?
Il y a plein de choses qui traînent les pieds. Alors, petit 1, les pays européens n'ont pas du tout la même perception de la menace. Hein. À l'Est, c'est la Russie et au Sud de l'Europe, des pays comme la France, c'est tout ce qui vient de la Méditerranée. Notamment la menace djihadiste. Donc déjà, on n'est absolument pas capable de définir des menaces communes. C'est d'ailleurs pour ça que la dissuasion nucléaire française ne peut absolument pas être mutualisée à l'ensemble de l'Europe. C'est que, par exemple, si la Russie attaque les pays baltes, La France et l'Allemagne ne voudront pas forcément venir au secours. Si, on peut prendre... là, c'est vraiment de la science-fiction, on est bien d'accord.
Il n'y a pas d'article 5 au niveau européen qui nous obligerait à défendre...
Il n'y a pas de consensus sur la menace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un problème financier, des questions de priorité. Mmh. On est quand même dans un monde, de ce monde de bisounours, c'est un monde de bien-être économique et social. Et aujourd'hui, ce qu'on préfère, c'est le bien-être économique et social... Et on ne veut pas dépenser plus. Le problème, Emmanuel Macron, dans cette interview, je pense, veut vraiment réveiller tous ces pays européens, mais leur demander de passer la vitesse mais maximum, d'être une espèce de Porsche pour rattraper le plus vite possible.
Et il dit, je vais citer Emmanuel Macron, il estime que l'Europe est une fragilité extraordinaire et qu'elle disparaîtra si elle ne se pense pas comme une puissance.
Elle disparaîtra au terme, l'Europe risque de sortir de l'histoire. Juste un dernier mot, c'est que en fait, Emmanuel Macron ne prend pas acte. Ce qu'il veut dire, c'est que je pense qu'il est en train de rechercher un moyen de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Et d'avoir pour la France, le général a fait un lapsus révélateur en disant français au lieu d'européen, parce que la France veut dominer ça, et il aimerait que la France ait plus de poids politique au sein
Alors,
de l'Europe.
Alors, général de l'OTAN. Desportes, vous vouliez dire un mot?
Oui, bien sûr.
Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est parce que je voulais avoir votre avis sur le monde des bisounours. Je me disais, ça va peut-être vous faire réagir. On était vraiment dans le monde des bisounours, et là, on se réveille dans un monde avec un peu d'anxiété.
Il n'y a que les Français qui croyaient à la guerre, et les Polonais, c'est vrai. Il n'y a que les Français parce que nous avions ce problème de terrorisme. Je vous rappelle qu'en 2013, quand on va faire l'opération Serval au Mali, il n'y a que les Français qui se disent, il y a une menace européenne, on demande à nos camarades européens de venir et dire, non, ça, c'est votre problème à vous, Français. Et donc, aujourd'hui, avec les attentats qui se sont multipliés, Stockholm, Londres, etc., les Européens commencent à comprendre qu'il y a un problème. Mais ils sont dans un monde de bisounours, c'est-à-dire qu'ils sont tranquilles. C'est-à-dire que ça fait des années et des années qu'ils ont sacrifié leur budget de défense au bien-être social, etc. Donc c'est extrêmement difficile de changer, si vous voulez. Je pense que pour que les démocraties acceptent le changement, il faut que les populations aient la conscience du danger. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir, de faire comprendre qu'il y a des services sociaux, des dépenses sociales qui ne peuvent plus être assurées parce qu'à un moment donné, les budgets de défense deviennent prioritaires. Donc il est plus facile pour le gouvernement de ne pas le faire et de dire « ne vous en faites pas, l'oncle Sam nous défend ».
Les chiffres des budgets. L'Europe est la seule région où depuis 10 ans, les dépenses de défense ont baissé de 9% alors qu'elles ont bondi de 167% en Chine, 97% en Russie et 112% en Arabie Saoudite. C'est pour aller dans le sens de ce que vous nous expliquez à l'instant. Alors c'est une guerre que la France mène chaque jour dans un territoire aussi vaste que l'Europe, le Sahel. Les 4500 hommes de l'opération Barkhane sont engagés dans une bataille qui semble sans fin face au terrorisme. Une bataille qui fait régulièrement des morts parmi nos soldats. Le dernier s'appelait Ronan Poitou. Il avait 24 ans. Il est tombé au Mali il y a quelques jours. Victoria Rouxel et Christophe Roquet.
C'est le dernier soldat français tombé au front.
Brigadier chef Ronan Poitou, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
À 24 ans, Ronan Pointeau a été la victime d'un engin explosif au Mali. Une attaque revendiquée par l'organisation État islamique.
Dans le vent et la poussière du Sahel, ce samedi 2 novembre, vous êtes tombé pour la France, en vous battant pour elle, jusqu'au dernier souffle.
Régulièrement, l'actualité rappelle de manière brutale la présence de 4500 militaires français au Sahel. Tout démarre en 2013 au Mali. L'opération s'appelle alors Serval.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie.
Face à la montée du terrorisme islamiste au Sahel, l'opération Épervier au Tchad et Serval au Mali ont évolué en opération Barkhane, Une intervention française aux côtés des troupes armées de 5 pays du Sahel. De la Mauritanie au Tchad, une zone de 5 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois la France, où les attaques sont récurrentes. La semaine dernière, au Burkina Faso, un convoi de civils a été la cible d'une embuscade terroriste, la plus meurtrière enregistrée dans le pays ces 5 dernières années.
Le nombre de décès que nous enregistrons pour le moment, c'est 38 morts. Nous enregistrons aussi des blessés. Nous en avons 63.
Quelques jours plus tôt, des djihadistes prenaient d'assaut un camp de base de l'armée malienne. Une cinquantaine de soldats maliens perdaient la vie. La population crie alors sa colère et remet en question la présence française sur le terrain.
Au Mali, on a la mission des Nations Unies, la MINUSMA, et l'opération Barkhane. Et pourtant, les tueries continuent. Les troupes étrangères sur notre sol ont été inutiles jusqu'à présent. Elles ne sont pas claires sur la nature de leurs actions. Les attaques doivent cesser. La France doit être transparente et honnête vis-à-vis de la population malienne.
6 années de présence. Mais un conflit loin d'être terminé face à un adversaire qui connaît bien la zone des combats.
Passages qui sont où on peut manœuvrer sans problème, les axes roulants, et parfois des passages avec des grands bancs de sable, où là les véhicules vont s'ensabler, on va être beaucoup plus de temps pour manœuvrer. Tandis que les terroristes, ils ont des motos, des petites motos, des petits pick-up, ils connaissent le terrain parfaitement.
Ce matin, le chef d'état-major des armées françaises reconnaissait la complexité de la tâche.
Est-ce qu'on est enlisé Vous savez, moi, je prêche pour la patience stratégique. Voilà. Je pense que, de toute façon, ces combats sont longs, mais c'est vrai que le combat est difficile. C'est vrai que le combat est difficile et que, finalement, les armées et les militaires, y compris de ces pays-là, n'ont qu'une partie de la réponse.
L'armée française compte cependant plusieurs victoires à son actif. Dernière en date, l'élimination d'Ali Mechou, membre d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon la ministre des Armées, il était le deuxième terroriste le plus recherché au Sahel.
Et cette remarque qui nous est adressée ce soir, c'est bien que Macron ait fait ériger un monument en hommage aux soldats morts en opération extérieure. C'est une bonne initiative pour Ronan Pointeau, comme pour les 549 autres depuis 1963. C'est un monument qui manquait.
C'est un monument qui manquait parce que ces soldats sont bien morts pour la France. Maintenant, les soldats défendent la France à l'extérieur du territoire national, mais ils meurent dans des guerres parce que même si ça ne porte pas toujours le nom de guerre, ce sont des guerres. Combien de morts au Liban, combien de morts en Afrique, au Tchad, combien de morts en ex-Yougoslavie. Tous ces gens-là sont allés défendre la France et les valeurs de la France. Il était bien normal qu'enfin on ait un monument rappelant l'engagement de ces soldats français pour la sécurité des Français et pour les valeurs de la France.
Ce qu'on comprend, c'est qu'il va falloir être patient. Ce sont même les mots utilisés par la ministre des Armées. Patient sur ce qu'on est en train de faire. 4500 hommes qui sont engagés dans l'opération Barkhane au Sahel.
Oui, parce que je crois que les Français doivent comprendre que nous avons quitté, hélas, le temps des guerres courtes, des guerres qui durent 2-3 ans. Nous sommes engagés, nous ne sommes plus dans des guerres brutales et courtes, nous sommes dans des guerres de basse intensité qui sont presque éternelles. On dit à l'état-major qu'une guerre, c'est 15 ans. En dessous de 15 ans, on ne sait pas faire. Regardez les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan, là, c'est comme ça. Et il n'y a pas de victoire possible, c'est bien la difficulté. On ne peut pas prendre Berlin, il n'y a pas de Berlin à prendre. Il y a petit à petit, marquer des affaires, on peut, je crois, maîtriser à peu près. Le problème n'est pas le problème de victoire, le problème est de faire accepter à chacun que la présence française est utile et elle ne sera reconnue comme utile que si à un moment donné, elle devient européenne aussi. Parce
c'était
que...
la question
que
je voulais vous poser, pourquoi on est seul là-bas?
Pourquoi on n'est pas tout à fait seul? D'abord, il y a les Britanniques, il faut le reconnaître. D'accord. Par exemple, on a 3 hélicoptères lourds qui sont là-bas. On a des Estoniens, je crois, qui sont venus. À Gao. On a aussi une mission de formation de l'UTM dans laquelle on a d'autres Européens. Donc on n'est pas seul, mais c'est compris comme une opération essentiellement française, alors que les risques, les dangers, les menaces sont au niveau européen et non pas uniquement au niveau français.
Il faudrait qu'elle commence par là,
c'est la question.
L'armée européenne.
Oui, c'est, vous avez posé la bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'on est seul, effectivement, au Sahel ? Dans le sens où, effectivement, vous allez me dire, traditionnellement, il y a l'investissement de la France dans ces zones-là, etc. Mais puisqu'on est en train de jouer maintenant à la mesure du monde, à la mesure des régions, si on doit comprendre ce qui est en train de se passer dans le Sahel, on est sur une opération Serval au départ qui a été menée, qui s'est élargie maintenant sur un ensemble de pays qui fait que clairement on est sur un territoire qui est aussi grand que l'Europe et qu'il y a une partie de l'armée française qui est déplacée dans Barkhane et qu'il y a une partie de l'armée des Nations Unies. Pourquoi, effectivement, il n'y a pas des Français si on part du principe qu'on est en train de lutter contre le terrorisme, si on est en train de partir du principe que ce qui se passe là au Sahel, si ça se gangrène, si demain il y a un califat qui se met en place, va remonter, va faire basculer la Libye, va faire basculer la Tunisie, peut faire basculer
l'Europe. Toute l'Europe est concernée.
Donc dans ces cas-là, toute l'Europe est concernée. Et s'il y a une vue d'ensemble à ce niveau-là, alors c'est ce que la ministre Parly annonce, c'est-à-dire que ce n'est pas encore opérationnel, mais c'est un des désirs des RATA français de faire travailler les forces spéciales ensemble sur un terme qui s'appelle le Tijisotov, c'est un peu barbare, mais qui veut clairement dire en fait qu'il faudra qu'il y ait des forces spéciales européennes avec l'aval français au départ, pour former des forces spéciales maliennes. Et là, effectivement, on se retrouve avec il y a des Norvégiens qui sont intéressés, il peut y avoir des Espagnols, il peut y avoir d'autres personnes. Donc là, il y a un discours européen qui est en train de se construire par rapport, effectivement, à cette armée malienne qui, elle-même, doit se construire à titre régional avec le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, et j'en oublie un que je vais retrouver, le Tchad.
Le Tchad. Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Macron, commandant en chef de l'Europe ?
Depuis le départ, il se vit comme cela, il est présenté comme ça. Rappelez-vous la couverture de The Economy, justement, juste après son élection, où il marchait sur l'eau, il présentait comme le sauveur de l'Europe. Et donc, il arrivait, il y a une panne. L'Espagne est en panne, l'Italie est en panne, la Pologne aussi. Et donc, effectivement, et l'Allemagne pour des raisons de politique intérieure. Il y a des crises de politique intérieure dans la plupart des pays européens. Et donc, la France aussi a été en panne avec les Gilets jaunes pendant quelques temps. Là, Macron pense qu'il peut récupérer une dynamique et une initiative. Mais effectivement, il faut bouscule un peu les autres Européens pour qu'ils suivent.
La France défend-elle l'Europe au Sahel ou protège-t-elle ses propres intérêts ?
Alors, deux choses. La France défend l'Europe. C'est pour ça qu'il serait bien, on l'a dit, que l'Europe participe. Ensuite, oui, bien sûr, la France a des intérêts. A des intérêts, ne serait-ce que parce que la stabilité de l'Afrique est un intérêt fondamental de la France et de l'Europe. Et d'ailleurs, si la France n'avait pas d'intérêt, elle n'aurait pas, le président de la République n'aurait pas la légitimité pour envoyer des soldats mourir. Donc, oui, la France a des intérêts, mais son intérêt général d'Afrique, c'est la stabilité de l'Afrique, et c'est un intérêt européen également.
Mais c'est vrai qu'on entendait tout à l'heure François Hollande, il y a toujours cette volonté de dire quand on déclenche une guerre, qu'on y va aussi au nom des valeurs.
Oui, c'est à la fois réel et hypocrite, parce que quand il n'y a pas d'intérêt, on ne se bat pas pour des valeurs. Enfin, les valeurs accompagnent les intérêts. Mais présenter d'ailleurs, dire on n'a pas d'intérêt en jeu, c'est mal perçu, parce qu'on dit mais qu'est-ce qui cache derrière ? Et en fait, je pense que ce discours disant qu'on n'a pas d'intérêt à défendre est contre-productif, puisqu'il apparaît comme hypocrite. Il faut dire qu'on défend peut-être des valeurs, droits de l'homme, etc., mais on défend également des intérêts, et le terme d'avoir des intérêts n'est pas un gros mot. Il est normal d'avoir des intérêts. Lord Palmerston disait, on n'a pas d'amis ou d'ennemis éternels, on n'a que des intérêts éternels. Oui, il disait ça en 1843, ça reste réel.
Les intérêts peuvent se confondre avec les valeurs. Exemple, au Mali, où la colonne de djihadistes fonce sur Bamako, l'intérêt de la France, c'est au nom des valeurs, pour éviter des répercussions terroristes.
On a toujours un mix entre les deux.
Donc c'est un mélangé.
Les valeurs font partie des intérêts.
Et c'est vrai aussi que ce dont on est en train de parler nécessiterait d'avoir des hausses de budget colossales. Parce que, juste un petit rappel, puisque vous dites dans les chiffres, le budget militaire américain, c'est quand même 37 fois le budget français. 37 fois. Ouais. Donc on voit quand même que nous, on n'est absolument pas capable d'être concurrentiel aujourd'hui. Mais si demain, il faut amener les populations européennes et françaises à réfléchir sur des augmentations de budget, alors dans ces cas-là, il faudra bien parler des valeurs, il faudra bien parler de notre qualité de vie, de nos démocraties, pour comprendre ce qu'on cherche à défendre.
Est-il vrai que le Mali ne veut plus des forces françaises et demande aux Russes de venir le défendre ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que après les Chinois, les Russes cherchent à rentrer sur ce continent dans une manœuvre d'encerclement. Non, je ne crois pas. C'est le problème habituel. Quand vous avez une armée qui n'est pas la vôtre sur votre pays, au bout d'un moment, elle énerve. Ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Afghanistan, ça s'est passé en France avec les Allemands. Quoi qu'il arrive, l'armée et devient une armée d'occupation. Et c'est bien là la difficulté, parce que ça fait
ça,
six ans...
Ça, vous dites, ça dure, mais ça quand ça dure, ans. En général, on parle d'armée d'occupation.
Au bout d'un moment, oui. C'est pour c'est ça.
Enfin, le gouvernement malien, le président malien demande le maintien des troupes françaises. On est venu à la demande des Maliens, pas comme en Irak. Il y a quand même une différence fondamentale. Et même si, effectivement, au bout d'un instant, il y a une lassitude de la part de la population, si l'armée française quittait le Mali, la situation ne s'améliorerait pas pour les Maliens. Au contraire, il y aurait une très nette détérioration.
Non, mais c'est sûr, mais après, la perception de la population, c'est quelque chose. Je vois les soldats français, ça ne s'améliore pas. Donc, ce que vous dites est parfaitement juste. Il n'empêche qu'au bout d'un certain temps...
Mais pourquoi n'entend-on plus parler des casques bleus de l'ONU ?
Alors, on en entend parler, puisque, justement, au Mali, on a justement la MINUSMA, qui est bien une force des Nations Unies. Donc, il y a bien, il y en a même...
Ils sont sur le terrain.
Ils sont présents, mais avec une grande difficulté. C'est que, finalement, les résultats sont très faibles, parce que, je dirais qu'une force militaire ne fonctionne bien que s'il y a une véritable volonté nationale derrière cette force. Le problème de l'ONU, c'est qu'il n'y a pas de véritable volonté nationale. Et ces soldats ne savent pas trop pourquoi, au moment où ils meurent, et beaucoup meurent, pourquoi ils meurent. Et donc, il y a une grave difficulté.
Avec une Turquie qui joue contre ses alliés et Trump qui dit que l'Europe est un ennemi commercial, à quoi sert l'OTAN maintenant ?
C'est la grande contradiction. On est allié dans l'OTAN et selon Trump, on est ennemi dans la vie quotidienne. Donc effectivement, il y a une sorte de schizophrénie parce que Trump désigne l'Union européenne. Aucun président, il y a toujours eu ce qu'on appelait des malentendus transatlantiques, des différences entre les États-Unis et l'Europe, mais aucun président américain jusqu'ici n'avait désigné l'Europe comme un ennemi. Donc il y a une schizophrénie stratégique.
Nous sommes passés non pas à une alliance, mais à un protectorat. C'est-à-dire qu'il y a un hégémone qui nous dit notre droit extraterritorialité du droit américain, qui nous dit à qui on peut vendre et acheter, etc. Donc on est dans une situation insupportable. Quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire et qui en même temps, ou dont en même temps, on n'est absolument pas sûr qu'il viendrait nous protéger.
Ça s'est renforcé avec Donald Trump ou est-ce que c'était déjà engagé avec Barack Obama ?
Alors c'était déjà engagé avec Barack Obama, mais ça s'est renforcé de manière extrêmement rude parce qu'il rudoie. Et là, je dis, l'Europe doit enfin avoir un peu de dignité. Nous sommes un vieux continent, un continent des Lumières, un continent de la philosophie, et nous nous laissons rudoyer et nous dire où nous devons aller par quelqu'un qui n'est probablement même pas capable de nous protéger.
Ça veut dire qu'il faut hausser le ton ?
Non, oui. Ça veut dire qu'il faut être digne.
C'est ce qu'a fait d'ailleurs Macron. Ouais. Il a haussé le ton, c'est aussi un signal. C'est un signal pour les Européens, mais c'est aussi un signal à voyez, aux Américains, attention, ne continuez pas comme cela.
Un peu de dignité et de grandeur.
Peut-on s'attendre à ce que la France quitte l'OTAN comme du temps du général de Gaulle ?
Non. On n'est pas en 1966 et pour l'instant, on peut même pas s'attendre pour l'instant à ce que, enfin, avec Trump, tout est possible. Mais par exemple, même la Turquie, pour l'instant, ne prévoit pas.
Il l'avait évoqué, Donald Trump, le fait de se désengager de l'OTAN.
Oui. Enfin, pour l'instant, l'OTAN existe militairement. C'est encore une organisation qui fonctionne relativement bien. C'est une organisation qui a pris en charge la réassurance des pays de l'Est vis-à-vis de la Russie. L'OTAN est en mort cérébrale, mais l'OTAN, pour l'instant, tant que...
Le cœur bat encore.
C'est-à-dire que tant que rien... Je veux dire, la question de la disparition de l'OTAN pourra se poser quand quelque chose pourra prendre la relève.
Comment expliquer que l'Allemagne s'accroche encore au parapluie américain vu que Trump n'est pas le premier à s'éloigner de l'Union européenne ?
Parce que depuis 49, ils dépendent, depuis 45-49, blocus de Berlin, ils dépendent de la garantie américaine. Sans eux, ils auraient été absorbés par l'Allemagne de l'Est, par l'Union soviétique, et que ça laisse des traces.
Il y a un syndrome américain. Madame Merkel, on l'a dit, quand elle était dans l'Allemagne de l'Est, il dit je rêve d'être en Californie, etc. Il y a une espèce de lien très fort, charnel, parce qu'effectivement, c'est l'Amérique qui a transformé
l'Allemagne. Et qu'on a aussi nous.
Bien sûr.
Qu'on a aussi nous, bien sûr. Que fait la Turquie dans l'OTAN ?
Ah, c'est une bonne question. Effectivement, parce que ça pourrait être elle qui partirait de l'OTAN. Question, si elle part de l'OTAN, ça veut dire que c'est un cadeau qu'on fait aux Russes, quand même, dans la mesure où, dans ces cas-là, on n'a plus la négociation et le discours avec la Russie. Donc, et puis qu'il y a une vieille tradition, je dirais, de l'Empire ottoman, même plus que des Turcs, c'est de savoir jouer sur les deux tableaux. Et donc, du coup, effectivement, ils font partie de l'ensemble.
Et au sein du monde occidental, européen et otanien, on considère que mieux vaut avoir la Turquie avec nous, parce qu'on peut essayer de l'adoucir que contre nous.
Si demain, la Russie envahit certains, vous nous en parliez tout à l'heure, certains pays est-européens, comme elle l'a fait en Crimée, quelle sera la réaction de l'OTAN, des États-Unis et de l'Europe ?
Eh bien, nul n'en sait rien, mais le président Trump a laissé entendre qu'il ne ferait rien. Et c'est bien toute ambiguïté, si vous voulez, que ces gens-là, ces pays-là, s'engagent auprès d'un protecteur qui ne les protégera pas.
Ça dépend quel pays. Fallait-il réintégrer le commandement intégré de l'OTAN ?
Écoutez, la réponse est non. Nous n'y avons rien gagné. Alors, ça nous a permis de faire marcher un peu mieux la machine, mais je rappelle que son cerveau est mort.
Moi, je pense que la réponse est oui, mais on a gagné en influence.
Non, oui. Voilà. Vous ferez votre avis. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.